Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, ce soir vous nous emmenez à l'autre bout du monde, la tête en bas, l'Australie s'apprête à voter, élection générale après-demain samedi. Vu la multiplication dans le pays des catastrophes naturelles liées au réchauffement, on s'attendrait à ce que l'écologie domine les débats, et bien ça n'est pas le cas du tout, vous trouvez ça inquiétant même pour nous, et c'est votre monde d'après.
Oui, parce que s'il y a un pays qui est aux premières loges pour constater et subir le réchauffement climatique, c'est bien l'Australie. Sur cette île continent de près de 8 millions de kilomètres carrés, sixième pays le plus vaste de la planète. Les épisodes météo de forte intensité se multiplient depuis 5 ans. Le dernier épisode en date, c'était fin février, des inondations sans précédent au sud de la grande ville de Brisbane sur la côte est. En 3 jours, tenez-vous bien, il est tombé l'équivalent de 70% de la pluviométrie annuelle. 70% en 3 jours, des trombes d'eau sans interruption. 3 mois plus tard, 1500 personnes n'ont toujours pas retrouvé de logement. On se souvient aussi bien sûr des gigantesques feux de forêt qui avaient ravagé le pays il y a 2 ans, provoquant la mort de plus de 30 personnes et de millions d'animaux, beaucoup d'oiseaux aussi, de koalas. Pendant l'été austral, les températures deviennent caniculaires. À l'intérieur du pays, les vagues de sécheresse se succèdent. Sur la côte, la sublime Grande Barrière de Corail subit actuellement un nouvel épisode de blanchissement majeur, le 6e en 25 ans, et c'est de plus en plus fréquent. Donc la vie des habitants se complique sérieusement. Un exemple parmi d'autres, d'ici 2030... Une maison sur 25, un foyer sur 25 ne pourra plus être assuré. Il y a trop de risques d'inondations, d'incendies, de cyclones. Donc oui, en toute logique, le sujet aurait dû dominer tous les autres pendant cette campagne électorale. Oui.
Mais donc, c'est pas du tout le cas.
Non, mais pas du tout. Hein. C'est de quoi a-t-on parlé pendant cette campagne ? D'abord de pouvoir d'achat, des emplois, des impôts, un peu d'immigration, de la pandémie. Elle redémarre en ce moment en Australie avec l'arrivée d'Omicron. Et malgré une campagne de vaccination très efficace, le Premier ministre conservateur sortant Scott Morrison met aussi en avant ses succès diplomatiques. Par exemple, le pacte de sécurité AUKUS, vous savez, avec Londres et Washington, vous vous souvenez, hein, l'histoire des sous-marins au détriment de la France. Ça va plus loin, Scott Morrison n'en a pas grand-chose à faire en réalité du réchauffement climatique. Ce chrétien évangélique convaincu a fixé des objectifs très bas pour la réduction des émissions de gaz. Et lors des incendies de 2019 dont on parlait, après être parti en vacances à Hawaï, il avait eu cette phrase au retour en Australie. « Vous savez, moi je ne suis pas une lance à eau ». Bon, l'opposition travailliste, qui part légèrement favorite du scrutin de samedi, est un peu plus ambitieuse sur le climat. Elle promet 43% de réduction des émissions de gaz, mais pas plus que l'actuel pouvoir conservateur. Elle ne veut toucher à la patate chaude, les mines de charbon. C'est l'une des principales ressources du pays. L'Australie est le deuxième exportateur mondial de charbon. Ces mines créent des emplois. Donc l'Australie continue d'en ouvrir. Priorité à la rentabilité commerciale à court terme. Même l'opposition travailliste est d'accord là-dessus. Le climat attendra. Et en plus, ces mines sont souvent situées dans des circonscriptions électorales clés. Donc, pas touche, silence radio.
Mais alors, en quoi ça nous concerne, nous ?
C'est assez simple à comprendre. Avec ces émissions de gaz et ces mines de charbon, l'Australie ne pollue pas qu'elle-même, elle pollue tout le monde. Des pays du G7, l'Australie est le plus polluant en émissions rapportées au nombre d'habitants, devant le Canada et les États-Unis. Si on additionne les énergies fossiles qu'elle consomme elle-même et celles qu'elle exporte, ça finit par représenter près de 4% des émissions mondiales. C'est quand même considérable pour un pays de seulement 25 millions d'habitants. Et c'est encore plus choquant quand on parle d'un pays riche qui aurait les moyens quand même de faire autrement. L'Australie a vraiment tout sous la main pour développer massivement des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Elle commence à le faire. Il y a quelques mois, le sud du pays a même fonctionné uniquement grâce à l'énergie photovoltaïque pendant quelques heures. Mais le potentiel est là pour faire beaucoup plus. Sauf que le pouvoir politique attend de voir le reste du monde finalement faire le boulot à sa place. Les dirigeants actuels ne s'en cachent pas. Hein. Le marché mondial finira par rendre le charbon moins rentable à terme et à ce moment-là, on arrêtera le charbon. Ponce Pilate, quoi. La maison brûle et les pompiers font du jardinage. Pour le dire autrement, l'Australie est à la fois l'appartement témoin du réchauffement climatique et l'appartement témoin du déni et de l'aveuglement de l'homme sur le sujet.